BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal Delphine Liu.
C'est Jean Jouzel, vous êtes vice-président du groupe scientifique du GIEC, cet organisme émanant de l'ONU qui lutte contre le réchauffement climatique. L'actualité de la semaine, c'est Barack Obama qui s'est engagé assez fermement sur le climat. Il a dévoilé un plan de lutte contre le changement climatique. C'est pas un peu tard ?
Ce n'est pas un peu tard, non.
Il n'est jamais trop tard ?
Il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Enfin ?
C'est peut-être quand même pas encore assez ambitieux, c'est plutôt ça. C'est dans les temps, puisque ce qui est important, c'est que les pays apportent dans la corbeille de ces discussions, de ces négociations de Paris, leur contribution.
C'était sa grande promesse de campagne de 2008.
Oui, quand même. Bien sûr. Il est vrai quand même que dans son premier mandat, il n'a pas fait grand-chose, il n'a pas été très actif. Dans le second mandat, le président Obama semble beaucoup plus actif et je crois qu'il souhaite laisser une trace. Alors, il y a une véritable conviction. Je pense, franchement, tous ces discours, disons, indiquent clairement que le président Obama est convaincu que, disons, les activités humaines sont à l'origine du réchauffement climatique actuel et que si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, nous aurons effectivement des conséquences très importantes. Il y a une véritable conviction qui n'est pas partagée dans le camp républicain.
Loin
de
là.
Il y a ce clivage aux États-Unis qui n'existe pas en France, heureusement. Donc il y a d'abord cette conviction et je crois le souhait quand même de laisser une trace politique et c'est bien qu'il ait fait ce choix, disons, de le faire sur les problèmes environnementaux. Ceci étant,
avec la grande inconnue, est-ce que ce sera ratifié au Congrès ? Est-ce que
oui, alors
la majorité qui va sortir de la prochaine élection présidentielle poursuivra son engagement ?
Alors sur ce point, il y a deux aspects par rapport à cette question, Delphine. Il y a deux aspects. Le premier, c'est que, disons, le président Obama essaye de contourner le Congrès en mettant dans le, disons plutôt, en faisant jouer le levier de son organisme environnement, EPA. Donc ça, c'est un point, donc plutôt par décret. Ensuite, alors est-ce que ça se poursuivra ? C'est évident que oui, si c'est Hillary Clinton, par exemple, qui a déjà annoncé un plan très ambitieux dans le domaine des énergies renouvelables, s'il était élu. C'est peut-être moins vrai si c'est un républicain, mais il faut bien voir qu'il y a une très bonne réception des mesures du président Obama chez les Américains. Donc c'est quand même pas si simple, ce serait pas si simple pour un républicain de revenir sur de telles mesures, d'autant plus qu'il y aura une pression internationale très forte. Donc je pense que c'est très important qu'il les mette en route et de façon ambitieuse, et je l'espère encore plus ambitieuse que celle qu'il a annoncée en début de semaine.
Les États-Unis avaient en grande partie torpillé la conférence de Copenhague, précédente conférence sur le climat. C'était en 2009 avec la Chine. Est-ce que on peut s'attendre à un état d'esprit plus constructif ? Donc, non, bon, de la part des États-Unis, ça semble clair. De la Chine et des autres États, selon vous ?
Oui, de la Chine. Alors, depuis Copenhague, le président Obama était à Copenhague quand même, et effectivement, ça n'a pas été un gage suffisant de succès. Depuis Copenhague, la Chine et les États-Unis ont, disons, mis sur pied un accord bilatéral, à savoir que les États-Unis se sont engagés à des diminutions de leurs émissions de gaz à effet de serre de 26 à 28% à horizon 2025 par rapport à 2005, tandis que la Chine s'est engagée à ce que son pic d'émissions ne soit pas plus tardif que 2030. Alors c'est probablement trop tard parce qu'il faudrait que le pic d'émissions global soit plus proche de 2020 que de 2030, mais il y a déjà un engagement de la Chine et des États-Unis à travers cet accord bilatéral. Alors,
L'engagement minimum, selon vous, quel serait-il ? Alors, minimum mais nécessaire ?
Non, l'engagement nécessaire, nous sommes dans un contexte très contraint, puisque l'objectif de la conférence de Paris, c'est de nous mettre sur une trajectoire qui permette à long terme de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés par rapport au climat pré-industriel. Ça, c'est inscrit dans les textes.
2 degrés, c'est le chiffre, voilà.
Oui, c'est ce à quoi tous les pays... Alors, ça fait pratiquement 1,5 degré par rapport au climat actuel. C'est ce à quoi tous les pays ont adhéré. Disons, la Convention climat, c'est inscrit de noir sur blanc dans la Convention climat. Pour respecter cet objectif, ça va être très très ambitieux, puisqu'il faut agir tout de suite entre 2015 et 2020, déjà infléchir les émissions à l'échelle planétaire, les diminuer d'un facteur 2 à un facteur 3 à horizon 2050. Ça veut dire qu'il faut que des pays développés, par exemple comme les États-Unis, et c'est le cas d'ailleurs pour les pays européens, pour la France, fassent mieux que cela. C'est-à-dire qu'il faudrait que les États-Unis s'engagent sur des objectifs de division par 3, par 4 de leurs émissions à horizon 2050. On en est loin par rapport à, bon, c'est moins 25% disons en 2025 par rapport à 2005. Donc on est loin de cet objectif ambitieux qui nous conduirait effectivement, qui nous permettrait de maintenir en dessous de 2 degrés. Il faut faire que les États-Unis fassent mieux, il faut que la Chine fasse mieux, mais c'est déjà un premier pas, c'est déjà important, disons par rapport à la situation que nous connaissions il y a quelques années. C'est déjà un signe très encourageant.
Il se passera quoi si rien n'est fait pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre?
Entre rien n'est fait, quelque chose sera fait, puisque, enfin, bon, on espère...
Ils sont engagés.
Je pense qu'il y a des engagements, alors ensuite, évidemment, entre l'engagement, disons, qui est d'une certaine façon moral, et puis la réalisation, il y a un chemin à parcourir qui n'est pas si simple. Hein. On voit bien aux États-Unis abandonner les centrales au charbon, lancer les renouvelables. En France, c'est pareil, nous avons la loi sur la transition énergétique, elle est là, elle a été votée, mais la mettre en œuvre n'est pas si simple. De toute façon, il y aura une réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire, mais on pourrait aller vers 3-4 degrés à la fin du siècle malgré tout, et il faut tout faire pour éviter ces changements, parce que ça sera très...
3-4 degrés en plus, ça veut dire quoi?
Bon, ça veut dire...
Les océans qui montent,
oui, alors c'est quoi alors? Par exemple, vous évoquez les océans sont mis à mal à la fois, disons, à travers l'élévation du niveau de la mer qui affecte quand même des régions côtières, des millions d'habitants chaque année devraient finalement quitter l'endroit où ils vivent à cause de cette élévation du niveau de la mer, et même une élévation du niveau de la mer de 50 cm voire de 1 mètre à la fin du siècle affecterait nos côtes françaises. Nous ne sommes pas, disons, en dehors de ces problèmes de réchauffement climatique. L'acidification de l'océan, si on reste sur l'océan, est quelque chose de très important, malheureusement, qui affectera aussi la vie océanique. Les récifs coralliens seront mis à mal, tous les coquillages que nous aimons bien se formeront moins facilement. Quand on regarde sur la planète, des sécheresses, des inondations, des événements extrêmes plus intenses, perte de biodiversité, le tableau est vraiment quelque chose vers lequel il ne faut pas aller.
Une petite parenthèse, justement, on parlait de terres inondables, etc. Le statut de réfugié climatique n'existe pas aujourd'hui?
Non, il n'existe pas du point de vue légal. Il y a beaucoup de difficultés à mettre sur pied ce statut de réfugié climatique qui sera nécessaire. Alors, il faut bien comprendre que actuellement, il y a probablement des réfugiés climatiques, c'est-à-dire même dans un contexte où le climat resterait stable, sans changement climatique, il y a toujours des catastrophes, par exemple des grandes sécheresses dans certaines régions, qui font qu'il y a des gens qui fuient l'endroit où ils vivent à cause d'événements climatiques. Mais le problème du réchauffement climatique, c'est que ça accélérera de façon très importante et ça rendra beaucoup plus visible ces réfugiés climatiques. On parle de centaines de millions à échéance de la fin du siècle si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Et il faudra évidemment avoir un véritable statut pour ces réfugiés climatiques dont, le cas sera toujours très difficile sur lequel il sera toujours très difficile de statuer, mais je crois qu'il faut aller de l'avant et beaucoup de gens se battent pour cela.
Alors,
et c'est très bien.
Alors revenons à nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Revenons en France. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire en France pour atteindre ce fameux objectif? Est-ce que la loi sur la transition énergétique va assez loin selon vous?
Oui.
Quelles sont les priorités sur lesquelles il faut vraiment...
Oui.
Ça a tardé aujourd'hui dans le pays.
Disons que pour rester en dessous de 2 degrés, il faut diviser au moins par 2 à l'échelle planétaire à horizon 2050, sinon par 3. Donc la France s'est placée, c'est normal dans ces cas-là, dans ce contexte-là, que des pays développés fassent mieux, visent à faire mieux, et les pays occidentaux, l'Europe, s'est plutôt fixé autour d'un objectif de division par 4 à horizon 2050. C'est le cas de la France. C'est inscrit dans la loi sur la transition énergétique, et j'adhère pleinement à cet objectif. Il y a aussi un objectif de diminution de consommation d'énergie, parce qu'on doit faire beaucoup d'efficacité énergétique. Alors, il faut bien sûr agir sur les moyens de production. Le premier levier, c'est l'efficacité énergétique. Ensuite, il y a les moyens de production. En France, on a une part importante de l'électricité qui est produite dans le nucléaire. Il y a ce débat sur le nucléaire, mais il y a aussi d'énormes possibilités de développement au niveau des énergies renouvelables, éolien, solaire, géothermie. On l'espère
on
aussi.
On n'est pas très en avance.
Non, on n'est pas très en avance.
Par rapport à l'Allemagne, par exemple.
Par rapport à l'Allemagne, nous avons plutôt du retard. Et personnellement, je pense que l'Allemagne est sur la bonne route, contrairement à ce qu'on entend très souvent. Et je pense qu'ils réussiront à atteindre leurs objectifs parce qu'ils ont mis ils ont mis paquet sur les énergies renouvelables. Et c'est, je crois, ce qu'il faut faire.
En arrêtant également
le problème de l'Allemagne, effectivement,
remarcher les centrales à charbon.
Voilà, le problème de l'Allemagne, c'est que la transition qui a été prévue à travers le gaz, l'utilisation du gaz, qui est moins émetteur, pratiquement deux fois moins émetteur pour produire la même quantité d'énergie que le charbon, ne s'est pas faite parce que le coût du charbon, disons sur un critère économique, tout simplement parce que le coût du charbon qui nous vient des États-Unis a baissé à cause du gaz de schiste. C'est ça le problème. Hein. Bon, mais ça ne veut pas dire, j'espère que c'est passager et que vraiment l'Allemagne nous montrera que c'est la voie qu'il faut suivre.
La COP21, c'est une conférence de chefs d'État. Les experts, ils sont là en coulisses. Comment vous allez peser sur les débats et les actions?
Donc à titre, moi, je suis membre de, la comité scientifique.
Les experts,
donc effectivement, les experts.
Les climatologues. Nous avons amené.
Alors, je crois que le rôle du climatologue, c'est de fournir aux négociateurs et aux décideurs politiques et aux chefs de gouvernement les éléments pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Je pense que nous avons largement fait ce travail à travers le dernier rapport du GIEC. Tous les éléments sont là pour prendre une décision, et on sait. On sait de façon très claire ce qu'il faudrait faire pour rester en dessous de 2 degrés. Alors cette décision, la première partie, c'est 2 semaines, mais quand même, la première partie, ce sont des négociateurs qui sont vraiment là. Les chefs de gouvernement arrivent les 3 derniers jours, le segment ministériel, ce sont les 3 derniers jours. Et donc, il y a quand même beaucoup de travail de négociateurs. Les chefs négociateurs sont un Américain et puis... un Algérien qui était récemment à Paris lors d'une conférence que nous avons organisée. Ouais, donc ils auront un gros travail. Après, ils amèneront le projet dans les mains de Laurent Fabius, qui aura ensuite à le présenter, qui sera le président de la COP, surtout au cours des 3 derniers jours. Donc c'est le rôle de la France est très important. C'est d'abord le rôle d'accueil. Il faut que tout soit réussi du point de vue logistique, et c'est pas si simple. Il y a tous ces problèmes d'accueil aussi. Il y a un rôle quand même, dans cette dernière étape, d'être le négociateur qui fait que cette conférence sera, j'espère, une réussite. On espère un peu plus d'engagement des autres pays. Pour le moment, nous sommes à 60% des contributions, mais c'est pas, évidemment pas suffisant.
Depuis la publication du dernier rapport du GIEC, est-ce que les connaissances actuelles sur le climat ont modifié quelque chose?
Oui, donc il y a toujours le dernier rapport du GIEC, c'est publication en 2013 pour ce qui concerne les éléments scientifiques, mais on a quand même 3 ans de nouveaux rapports. D'ailleurs, on a fait le tour des derniers résultats dans cette conférence il y a un mois, qui s'est tenue à l'UNESCO et à l'Université Paris 6, à Jussieu. Et bien, par exemple, des résultats récents, c'est que, contrairement à ce que nous pensions il y a un an ou deux, bien le réchauffement se poursuit au même rythme. Les 15 dernières années, le réchauffement s'est poursuivi au même rythme que les 30 années précédentes. C'était pas très clair. L'élévation du niveau de la mer se poursuit et certains pensent que l'élévation du niveau de la mer sera le véritable problème du 21e siècle. Par exemple, un papier très récent de Jim Hansen qui dirait que c'est plutôt quelques mètres à horizon au-delà du 21e siècle. Donc c'est des résultats très importants pour certains peut-être plus catastrophistes qu'ils ne l'étaient dans le dernier rapport du GIEC.
Est-ce que c'est pour ça qu'on n'entend plus les sceptiques du réchauffement climatique, qui avait quitté le GIEC il y a quelques années en dénonçant ces méthodes?
Il y a eu très peu de gens à quitter le GIEC. À ma connaissance, il n'y en a pas eu, contrairement à ce qu'on dit. Il y a des gens qui ont critiqué le GIEC, ce qui est d'une certaine façon très bien. Bien sûr, le climato-scepticisme est quelque chose qui est sain, mais je crois qu'actuellement, sur tous les points de discussion, il faut regarder les arguments, et c'est clair que les arguments se sont ajoutés, se sont empilés au cours des dernières années, et malheureusement, nous avons confiance dans ce diagnostic que si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, nous irions vraiment vers des conséquences très importantes. Donc, que le scepticisme existe toujours, mais il faut effectivement le juger à travers les arguments. Il y a de moins en moins d'arguments, pratiquement plus, pour, par exemple, remettre en cause le rôle des activités humaines dans le réchauffement récent.
Autre titre qui a fait l'actualité la semaine dernière, c'est l'attribution des JO d'hiver à Pékin. Qu'est-ce que le climatologue pense de cette attribution, plus exactement?
Oui, c'est une attribution assez bizarre dans des endroits où les premières montagnes sont, je crois, à 200 km, et puis il faudra de la neige artificielle. C'est quand même... Bon, c'est quand même un non-sens. C'est clair que pour moi, et enfin bon, d'ailleurs, c'est, je pense que les problèmes de neige artificielle sont aussi en France et dans les Alpes. Je ne crois pas que ce soit très viable dans le futur. Donc, c'est quand même des questions qu'on doit se poser, y compris en France. Mais bien sûr, c'est un très très mauvais signal que d'attribuer les Jeux Olympiques, en tout cas vu du point de vue du climatologue, à un pays où il faudra de façon très claire faire de la neige artificielle.
Merci Jean-Jouzel d'avoir répondu à notre invitation. Et puis évidemment, on aura l'occasion de vous réentendre au fur et à mesure que cette COP21, cette conférence sur le climat à Paris s'approche. Ce sera donc en décembre prochain.
Ce sera avec plaisir.
Le grand journal continue après le journal de la rédaction. On sera avec Patrick Artus et Benaouda Abdedaïm pour parler de l'économie de la Grèce. La Grèce qui pleure et l'Espagne qui rit. À tout de suite.
BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, Delphine Liu.
La Grèce qui a remboursé hier près de 200 millions d'euros au FMI. La Grèce qui évite ainsi un nouveau défaut de paiement vis-à-vis de l'institution. La Grèce qui n'est pas au bout de ses peines, puisqu'elle doit encore rembourser un total de 22 milliards d'euros rien qu'au FMI. D'autres échéances sont encore attendues pour la BCE. Des actualités aussi sont sorties au sujet de l'Espagne qui semble sortir la tête de l'eau. Alors pour en parler, Patrick Artus est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef économiste chez Natixis et puis Benaouda Abdedaïm est avec nous dans le studio, éditorialiste sur les questions internationales. Patrick Artus, Athènes doit donc encore rembourser plusieurs milliards d'euros au FMI. Elle a une échéance importante le 20 août prochain, 3,2 milliards pour la Banque Centrale Européenne. Alexis Tsipras réclame, lui, une première tranche d'aide pleine. D'autres pays, comme l'Allemagne, plaident plutôt pour un crédit relais. Qu'est-ce qui vous semble tenir la corde aujourd'hui ?
Donc, je crois que, de toute façon, il y aura un accord. C'est-à-dire que la technique de l'accord peut être complexe, parce qu'il faut un peu de temps pour négocier. On ne met pas en place un plan de 80 milliards d'euros de prêts en quelques jours. Il y aura peut-être un prêt relais, parce que ce n'est pas sûr que d'ici le 20 août, on ait temps d'avoir finalisé ce plan Grèce numéro 3, puisque c'est le troisième plan d'aide européen à la Grèce. Enfin, on voit bien que la logique aujourd'hui, c'est de parvenir à un accord avec la Grèce sur les bases voisines de celles qui ont été négociées au mois de juillet, c'est-à-dire des prêts à la Grèce qui lui permettent de rembourser tout ce qui tombe à échéance jusqu'en 2018, et en échange, une politique de réforme en Grèce. Certaines réformes sont raisonnables, par exemple continuer à réformer le système de retraite, faire des privatisations, mettre de la concurrence dans certaines professions. D'autres réformes sont plus discutables, par exemple la poursuite de la réduction des déficits publics. Enfin, à peu de choses près, cet accord-là sera mis en place. Donc il n'y a plus aujourd'hui énormément de suspense. Il y a une grosse interrogation qui est de savoir si cet accord a du sens, c'est-à-dire s'il permettra, dans les deux ou trois prochaines années, à la Grèce de reconstruire une économie en croissance raisonnable.
Et là, parce que c'est ça, on a un peu l'impression qu'on ne fait des prêts à la Grèce que pour rembourser ses prêts et pas tellement pour reconstruire son économie.
Très peu pour investir dans le pays. Il y a une partie quand même qui est utile, qui va recapitaliser les banques. Les banques grecques aujourd'hui sont incapables de financer l'économie, et ça évidemment c'est quelque chose qu'il faut réparer. Donc la remise en état du système bancaire grec, avec des recapitalisations, probablement avec des fusions de banques, peut-être avec des nationalisations, quelque chose qui est important et qui va dans le bon sens. Après, l'absence de réflexion, elle est sur la stratégie économique. Une stratégie économique, c'est de dire quels sont les secteurs forts du pays. Quelles sont les aides qu'il faut apporter pour que des entreprises viennent dans ces secteurs, qu'est-ce qu'on met en place comme politique fiscale, comme politique d'incitation, et cette réflexion-là, elle est complètement absente. Un pays dans une union monétaire, il se spécialise dans un certain nombre de productions qui correspondent à ses savoir-faire, ce que les économistes appellent les avantages comparatifs. Quels sont les avantages comparatifs de la Grèce ? On sait que la Grèce aujourd'hui a des armateurs, a du raffinage de pétrole, a un peu d'agroalimentaire, a beaucoup de tourisme, mais ceci ne suffit pas à faire une économie en croissance durable. Il faudrait développer d'autres secteurs de l'industrie, peut-être dans l'énergie, il faudrait développer les nouvelles technologies, et ceci nécessitera des aides européennes, et pour l'instant, on n'en parle que de façon très abstraite, et certainement pas d'une façon qui va déboucher rapidement sur un programme qui amènera qui amènerait des investissements en Grèce.
Benaoud Abdelhami, est-ce que le principal problème de la Grèce, c'est pas un État totalement ou en tout cas partiellement défaillant ?
Un État défaillant et qui est pris dans une spirale de dépression qu'on a du mal à concevoir. On est dans 29e mois de déflation. On a eu hier les données du ministère des Finances sur l'excédent primaire. En fait, il n'y a plus d'excédent primaire, on est en déficit primaire. Les administrations publiques sont en déficit primaire de 442 millions d'euros, alors qu'il y a un an, ils étaient à 740 millions d'euros d'excédent primaire. Et on continue effectivement, comme l'a expliqué Patrick Artus, à batailler autour de niveaux de taxation. Par exemple, l'un des points d'achoppement actuellement entre les négociateurs qui sont sur place à Athènes et le ministère grec des Finances, c'est le niveau de l'impôt de solidarité pour les revenus au-dessus d'un demi-million d'euros annuels. Les uns disent il faut 8%, les autres disent 6%. Et c'est effectivement, on continue à discuter de niveaux chiffrés et pas d'une stratégie globale pour l'économie grecque, sachant qu'on essaye aussi de se contenter finalement de très peu. Il a suffi que le taux de chômage passe de 27% en mai 2014 à 25% en mai 2015. Et déjà, on est en train de se dire que certains se disent que la Grèce est sur le bon chemin. Or, personne ne peut estimer actuellement que l'économie grecque ne serait-ce que l'espoir de revenir sur un chemin plus ou moins favorable comme le Portugal ou sans même parler d'Irlande.
Donc la Grèce est en train de négocier en ce moment donc son troisième plan d'aide auprès de ses créanciers, FMI, Communauté Européenne, BCE, 80 milliards d'euros. Donc ce plan qui doit être bouclé en théorie avant le 20 août. Patrick Artus, le Fonds Monétaire Européen réclame donc des réformes que vous venez de développer. Le Fonds réclame aussi que les Européens allègent leurs dettes à l'égard de la Grèce. Et là, ça coince politiquement.
Oui, ça coince politiquement. Vous savez, il y a un principe de base du FMI que d'ailleurs ils ont déploré de n'avoir pas pu appliquer au début de la crise grecque en 2009. Et à l'époque, ils ont été poussés par les Européens à oublier leur principe. Le principe de base, c'est que si un pays est confronté à une crise de liquidité, ce qui veut dire qu'il est solvable, mais que pour l'instant, il n'arrive pas à se financer normalement sur les marchés financiers, alors il faut lui prêter. Donc il faut à ce moment-là que le FMI ou l'Europe aujourd'hui se substitue aux marchés financiers pendant le temps nécessaire. Et que ça ne sert à rien de prêter un pays qui a une crise de solvabilité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas rembourser ses dettes. Or, la Grèce est insolvable. Alors on n'est jamais insolvable. Ça ne veut pas dire grand-chose en soi. Ça veut dire que pour que la Grèce soit solvable, il faudrait faire un effort budgétaire tel qu'il est inconcevable. Donc la Grèce est en réalité insolvable, ce qui veut dire que le FMI a raison. Il faut réduire la dette de la Grèce. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on soit en situation de conflit ici entre l'Europe et le FMI, parce qu'on pourrait trouver des solutions techniques qui satisferaient tout le monde. Ce que ne veulent pas les Européens, et en particulier les Allemands, c'est afficher aujourd'hui des pertes sur la Grèce. Que ce soit eux, que ce soit directement, que ce soit leur banque centrale, que ce soit la BCE, que ce soit les fonds européens, le fonds qui s'appelle le MES, vous savez, qui a prêté 140 milliards d'euros à la Grèce. Mais on pourrait trouver le moyen d'alléger le poids de la dette grecque d'une façon intelligente qui ne conduise pas en fait à un défaut, par exemple en repoussant très très loin dans le temps le remboursement, mais en gardant à la dette la même valeur, vous voyez. Donc il existe des solutions techniques qui permettrait à la fois d'alléger le coût de la dette pour la Grèce et à la fois d'éviter une crise politique en Allemagne, avec la très forte réaction des anti-européens, si on peut dire ça, allemands, à toute forme de dette budgétaire supplémentaire à la Grèce. Mais on n'a pas l'air de vouloir explorer ces solutions techniques, ce qui est assez dommage.
Benaoud Abdelhami, est-ce que c'est pas bizarre que le FMI, créancier de la Grèce, demande à un autre créancier, en l'occurrence les pays européens, d'alléger leur dette à l'État de la Grèce? Pourquoi ne le fait-il pas lui-même?
C'est-à-dire qu'au sein du FMI, il faut rappeler qu'il n'y a pas que l'Europe, les États-Unis et le Japon. Il y a des pays extrêmement pauvres qui sont dans ce pays, ou même qui sont émergents, ou qui ont des PIB par habitant trois fois inférieurs à celui de la Grèce, et qui ont consenti à passer sous les fourches caudines du FMI à travers de plans d'ajustement structurel au moins aussi durs que pour la Grèce. Et il y a ce sentiment, si ce n'est de traitement de faveur, au moins un traitement privilégié à l'égard de la Grèce. Un point simple qu'on soulevait bien des économistes, c'est que lorsque vous décidez d'un plan d'ajustement structurel, le FMI demande une dévaluation. Or, c'est impossible, étant donné que la Grèce est au sein d'une union monétaire. Un certain nombre de données de base comme celles-ci n'ont pas été respectées, ce qui amène certains, ils sont rares, mais certains, comme le représentant du Brésil, et qui représente non seulement le Brésil, mais 10 autres pays en développement, à dire que ça a été un énorme gâchis, inadmissible, surtout quand il s'agit d'un pays de l'OCDE. Il faut le rappeler, la Grèce a un PIB par habitant supérieur à 20 000 dollars. Ce n'est pas le Burkina Faso. Lorsque certains font la comparaison entre la lutte contre la dette extérieure de Thomas Sankara, qui, à la fin des années 80, le Burkina Faso, c'est 700 dollars par habitant. La Grèce, c'est plus de 20 000 dollars par habitant. Donc, ce sont certains rappels, cause des Africains, cause des Latino-Américains, cause certains Asiatiques.
Le FMI doit ménager ses actionnaires pour qu'on ne lui reproche pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Ils ne se trouvent pas tous à Paris
ou à Washington, les actionnaires du FMI.
Patrick Latouche, vous restez avec nous. Hein. Vous avez mentionné tout à l'heure, évoqué les éléments sur quoi la Grèce peut compter pour se redresser. Il y a bien évidemment le tourisme, et je vous propose qu'on aille du côté de Athènes. Nous attend Alexandros Vassilikos. Bonsoir. Merci
Bonsoir.
D'être avec nous. Vous êtes président de l'association des hôtels Athènes Attica. La Grèce qui s'est fait peur. En tout cas, j'imagine que les professionnels du tourisme ont eu très peur il y a quelques semaines quand la Grèce a failli sortir de la zone euro. Comment ça a-t-il eu un impact sur le tourisme, en tout cas au mois de juillet? Quelles données pouvez-vous nous apporter ce soir?
Déjà, vous avez raison de dire qu'on a eu peur. Donc, ça a été un moment difficile. On a eu un impact, je dirais, à partir de l'annonce du référendum, qui a duré à peu près 2 semaines, où nous avons ressenti une forte baisse du rythme de réservation. Nous n'avons pas eu d'annulation, par contre. Et 2-3 semaines plus tard, nous avons assez rapidement, c'est-à-dire dès que l'accord a été signé, nous sommes revenus à des rythmes de réservation normaux pour la saison. Donc on ne s'en tire pas trop mal. Je pense qu'on va arriver à boucler l'année avec les prévisions qu'on avait au début de l'année, malgré ce petit qu'on a eu donc dans le mois de juillet. Et tout ça aussi avec une réaction qu'il y a eu au niveau des professionnels sur les tarifs. Donc ça a aussi facilité de maintenir le nombre d'arrivées sur Athènes et sur la Grèce en total.
Donc on se dirige vers des chiffres similaires. Il me semblait que le premier semestre allait même être meilleur que celui des 6 premiers mois 2014.
Tout à fait. Pour Athènes, oui, nous avons eu une hausse supérieure à 25% sur les arrivées internationales de l'aéroport. C'est-à-dire nous avons bouclé le premier semestre à plus d'1,8 million arrivées internationales par rapport à 1,4 million l'année dernière. Donc c'est une forte hausse. Bien sûr, Athènes revient de loin, parce que bon, nous avons passé des années assez difficiles, mais d'un autre côté, on voit qu'il y a aujourd'hui une bonne dynamique, et je pense qu'on est dans le bon sens pour un recouvrement.
Août se présente bien et août également.
Août se présente bien. Oui.
Comment est-ce que les professionnels de la restauration, du tourisme ont répercuté la hausse de la TVA?
Écoutez, les problèmes qu'on a eus les semaines précédentes, c'était la TVA, c'était le problème qu'on a eu aussi avec les limitations sur les capitaux. Donc je pense qu'on a finalement assez bien géré. Les prix qui avaient déjà été signés pour cette année n'ont pas été influencés, donc ça n'a pas été passé au consommateur final. Maintenant, bien sûr, pour l'année prochaine, les contrats sont en cours de négociation, donc c'est quelque chose qui se discute. Une partie peut-être sera absorbée, je pense. Une autre partie sera passée aux consommateurs, mais de toute façon, il faut savoir, en tout cas pour le cas d'Athènes, Athènes est aujourd'hui la capitale la moins chère d'Europe. Donc, même si les prix hausse de 3 ou 4%, c'est pas quelque chose qui devrait avoir une répercussion sur la demande pour la destination.
Dernière question, Alexandros Vassilikos. Est-ce que les Français, qui représentent un gros contingent des touristes dans votre pays, ont-ils changé leurs habitudes? Ils vont toujours aux mêmes endroits, ce sont toujours...
Disons que les dernières années, on a fait beaucoup d'efforts pour essayer de présenter un petit peu Athènes différemment de ce qui est connu jusqu'à présent, c'est-à-dire sortir un petit peu des clichés comme l'Acropole, le Plaka, le musée de l'Acropole, etc. Il y a énormément de choses à Athènes qu'on essaie de mettre en avant. Les îles qui sont autour d'Athènes, donc des îles sur lesquelles on peut aller en une heure à partir du centre, les plages qui sont à 20 minutes du centre, donc on essaie de montrer une image assez différente. Et bien sûr, énormément de produits nouveaux qui, surtout, proviennent du secteur privé, comme les routes du vin, les tours gastronomiques d'Athènes, etc. Ce sont des produits qui ont une forte demande et on pense qu'aujourd'hui, on arrive à la couvrir d'une très bonne façon pour suivre un petit peu ce que demandent aussi les visiteurs.
Merci beaucoup, Alexandros Vassilikos. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des hôtels Athènes-Attica. Après la Grèce, direction l'Espagne, alors que la bourse d'Athènes a plongé, en tout cas en début de semaine, on a eu des nouvelles plutôt positives en provenance de Madrid, avec cette croissance du PIB qui est normalement prévue de plus de 3% cette année, 3,3% en 2015, 3% en 2016. Patrick Artus, est-ce que la Grèce a définitivement tourné la page de la crise, selon vous ?
L'Espagne, vous voulez dire.
L'Espagne, pardon,
oui.
Excusez-moi.
C'est une bonne transition, parce que quelle est la grande différence entre la Grèce et l'Espagne ? Vous disiez tout à l'heure que la Grèce ne peut pas dévaluer, mais la Grèce a dévalué. Elle a dévalué parce qu'il y a ce qu'on appelle une dévaluation interne, c'est-à-dire la Grèce a baissé ses salaires. Les salaires ont baissé en Grèce de 25 à 30%. Donc en réalité, la Grèce a dévalué. Les coûts en Grèce ont baissé par rapport à ceux des autres pays. L'Espagne a fait la même chose. Les coûts salariaux en Espagne ont beaucoup baissé. Les entreprises ont fait beaucoup de gains de productivité. La grande différence entre la Grèce et l'Espagne, c'est qu'en Grèce, le seul secteur, et on vient d'en parler, qui a profité de cette amélioration de la compétitivité, de la baisse des coûts, c'est le tourisme. Le reste de l'économie est tellement dégradé qu'il n'arrive même pas à profiter de la baisse des coûts. C'était d'ailleurs assez intéressant dans le débat sur la Grèce, parce que ça nous disait aussi que si les Grecs sortaient de l'euro et dévaluaient, ça ne leur apporterait rien, puisque leur économie n'était plus en état de profiter d'une dévaluation. Au contraire, l'Espagne et le Portugal sont des pays qui profitent et qui ont profité et qui profitent tout à fait considérablement de cette forme de dévaluation qui est la seule qu'on peut faire dans une union monétaire. À nouveau, ça s'appelle une dévaluation interne qui consiste à baisser les coûts salariaux. Et on voit en Espagne, on a vu, et d'ailleurs au Portugal, on a vu repartir les exportations, puis les investissements, puis l'emploi, puis la consommation, puis même maintenant le logement, même en Espagne. Donc on a une reprise globale, mais son point de départ, c'est que ce sont des économies qui sont restées suffisamment dynamiques et actives, avec des entreprises dynamiques, des vrais entrepreneurs, pour profiter de cette baisse des coûts, pour aller gagner des parts de marché et du coup investir, et aussi des économies qui attirent beaucoup d'investissements étrangers. Donc on a une réaction extrêmement différente en Espagne et au Portugal par rapport à la Grèce, à l'amélioration de la compétitivité qui à nouveau en Grèce n'a aidé que le tourisme. Donc la reprise espagnole, c'est une vraie reprise. Alors bien sûr, il faut pas oublier que l'Espagne doit avaler ce qui s'est passé dans le secteur de la construction. Il y avait 16% des Espagnols qui travaillaient directement pour le secteur de la construction. On a perdu les deux tiers de ces emplois. Donc il y a un taux de chômage qui est toujours de 22%, mais qui va baisser maintenant assez rapidement. Donc il faut avaler cette crise de la construction. Mais on a une vraie dynamique tirée par la compétitivité. Alors juste deux petits points additionnels pour, si vous permettez, oui, très vite, pour dire que un, ce qui est positif en Espagne est plutôt assez largement pris aux autres. Donc les investissements supplémentaires en Espagne, c'est plutôt, dans leur très grande majorité, des investissements qui se font pas en France, en Allemagne ou en Italie.
D'accord.
Donc ça, c'est pas terrible. Et deuxième point qui est évidemment important, c'est cette forte amélioration de l'efficacité du système productif espagnol. L'Espagne est aujourd'hui le seul pays de la zone euro où, même s'il n'y avait pas eu la baisse de l'euro et même s'il n'y avait pas eu la baisse du prix du pétrole, il y aurait toujours beaucoup de croissance.
Benaouda Abdelhakim, très rapidement, le gouvernement de Mariano Rajoy a présenté cette semaine un budget 2016. Est-ce qu'on peut dire que c'est un outil de propagande électorale en vue des élections de la fin de l'année ?
Oui, ça sera une fin d'année très difficile pour l'État espagnol dans son ensemble. Il y a d'abord les élections du 27 septembre en Catalogne qui pourraient mener les indépendantistes à réclamer une sécession. Et puis, vous avez en décembre, au mois de décembre, effectivement, les élections générales où on voit que le Parti populaire et le parti ou le Parti socialiste ne sont pas en mesure, pour l'instant, selon les derniers sondages, de former une majorité à eux seuls. Donc, ils devront aller chercher très probablement des voix, soit auprès de Podemos, soit auprès le Syriza espagnol, soit auprès de Ciudadanos, qui est une plateforme citoyenne du centre. Donc, ça risque de créer beaucoup d'instabilité politique dans les mois à venir en Espagne, qu'il va falloir prendre en compte. Donc, en attendant, le gouvernement Rajoy considère qu'il est en mesure de rétribuer les Espagnols du fruit de leurs efforts. Donc, on envisage même, non seulement on va augmenter dans le budget 2016 le budget de l'éducation, de la culture, de la santé, de la recherche et développement, mais aussi même augmenter d'1% les fonctionnaires, ce qui était inenvisageable. Voilà,
c'est parlé depuis 2009.
Et puis aussi prendre en compte cette génération perdue en Espagne, sachant qu'il y a eu des millions et des millions de jeunes Espagnols qui n'ont plus aucun espoir de trouver du travail dans leur pays, ce qui est aussi un facteur qui peut expliquer cette montée des mouvements anti-système en Espagne.
Bien sûr. Merci en tout cas à tous les deux, Benaouda Abdedaïm et Patrick Artus, d'avoir commenté avec nous ces derniers chiffres en Grèce et en Espagne. C'est fini pour le Grand Journal. Vous retrouvez David Doba la semaine prochaine. Tout de suite, dans quelques instants, le journal de la rédaction et Chine Hebdo avec Mathieu Jolivet.